Ce soir, on va survoler Daniel, le prophète Daniel. Je ne parle pas de Daniel Flores.
Je ne sais pas, c'est Daniel.
Tu connais bien Daniel. Prions. Seigneur, on te remercie pour cette occasion de se réunir pour voir ta parole et notamment voir les prophéties de Daniel. Merci de les avoir préservées, merci de nous aider à les comprendre et sois glorifié dans ce temps. Aide-nous à mieux te connaître, pour mieux t'aimer, mieux te servir, Seigneur. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a deux personnes dont on ne dit aucun mal. Est-ce que vous pouvez penser à ces personnes? On va mettre Jésus à part, oui, c'est bien. Deux autres hommes.
Daniel.
Comment tu as deviné? C'est bien. Et quel est l'autre? C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. Je parle d'un personnage un peu plus... Il y a Joseph, voilà. Joseph et Daniel sont très bien vus dans la Bible. C'est un livre qui a été authentifié par Jésus lui-même. Dans Matthieu 24, 15, Jésus a dit... C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Il y a deux parties. La première partie, c'est 12 chapitres au total. Les 6 premiers chapitres, c'est un récit historique de la déportation de Daniel et de... d'autres jeunes. Il y a le rêve de la statue du roi Nebuchadnezzar et l'épisode bien connu des écoles du dimanche de la fournaise ardente, fournaise brûlante. Et les derniers chapitres, les 6 derniers chapitres, parlent de prophétie avec ce qui est sans doute la plus grande prophétie de la Bible, le chapitre 9, Daniel 9. Vous vous souvenez, on a vu un peu l'histoire qu'en fait, la Syrie avait emmené le royaume du Nord en captivité en 721 avant Jésus-Christ. Et pour le sud, Juda, qui regroupait la tribu de Juda et aussi Benjamin, il y avait plusieurs épisodes de la déportation en captivité. S'il faut se rappeler d'une date, on avait dit que c'était 586 avant Jésus-Christ, où Judas est emmené en captivité à Babylone. Mais il y a plusieurs épisodes. En 606, donc avant cette date de 586, il y a ce roi Nebuchadnezzar qui vient de Babylone, qui domine Jéhoiakim, le roi de Juda. Il prend les trésors du temple et des jeunes nobles, dont le futur prophète Daniel et 3 de ses amis. Ils vont être emmenés à Babylone. On va retrouver ça dans le récit de Daniel. On avait vu ça dans 2 Chroniques 36. Et le roi va mettre à la place de Jéhoiakim, il va mettre Jéhoiakim. Il va le renommer, il va remplacer ça par un roi Matania, qui va renommer Sédécias. Et c'est lui qui va être battu en 586, où le siège de Jérusalem va terminer. La prise de Juda. Il va y avoir un autre épisode en 581 où les Babyloniens vont revenir et emmener encore quelques captifs. Ça, on voit ça dans Jérémie 52. Mais la captivité de Juda à Babylone a été prédite 100 ans plus tôt par le prophète Ésaïe et par le prophète Michée. Ésaïe 39,6, voici que des jours viennent où on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Le prophète Michée, 4,10, maintenant tu sortiras de la ville et tu feras ta demeure dans les champs, tu iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Jérémie prédit dans Jérémie 25, 11 et 12 que la captivité durera 70 ans. Et ça sera vérifié. Elle va commencer donc après le premier siège en 606 et se terminer en 538 avant Jésus-Christ. Et il y a une succession des empires de l'histoire. Donc la Syrie va être dominée à son tour par Babylone dont on parle maintenant. On va voir dans le récit que ça va être remplacé par les Perses et les Mèdes, puis par les Grecs, puis par les Romains, et ainsi de suite. Daniel, ça veut dire « Dieu est mon juge ». Donc on va regarder ensemble Daniel 1, page 873, la troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra la ville entre ses mains et le roi de Juda. Et Daniel, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, emmène ses affaires, ses objets de la maison de Dieu dans le pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. D'habitude, lorsque des troupes battaient un pays, ils prenaient les copies des statues des dieux. On pensait que c'était la chose la plus valable. Mais là, bien sûr, il n'y avait pas de statue des dieux en Israël, en Juda. Et donc, ils emmènent des trésors de la maison de l'Éternel, du temple, des objets rituels, des objets sacrés. Et là, on voit au verset 3 que le roi dit à un de ses responsables, Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des dignitaires, des jeunes israélites de race royale. Il voulait trouver des jeunes garçons sans défaut corporel, verset 4, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, pour les mettre au service du roi, et il voulait leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et pour les garder en meilleure santé, pour qu'ils soient au meilleur de leur forme, il leur impose un régime. Ils devaient boire certains mets, boire du vin. Il voulait les élever pendant trois ans, pour les préparer au service du roi. Et là, il y a trois jeunes, donc, avec Daniel. Il y a Anania, Michaël et Azaria. On les connaît mieux sur leur nom qui est donné au verset suivant, verset 7. Shadrach, Meshach et Abednego. Surtout quand on a travaillé à l'école du dimanche, on les connaît bien, ces trois jeunes. Mais verset 8, Daniel résolut lui de ne pas se souiller. Il ne veut pas recevoir les mets et le vin que le roi veut leur faire à boire. Et Dieu donne à Daniel la faveur et de la compassion devant ce responsable. Et il lui explique que vous devez faire ça parce que si vous n'êtes pas en forme, je risque ma tête. C'est le verset 10. Et Daniel dit, non, fais-moi confiance, on va manger des légumes et boire de l'eau pendant 10 jours, et tu verras comment on se porte. Ce que fait le responsable des eunuques. Et au bout de 10 jours, ils avaient une mine superbe. Et ainsi de suite, l'intendant leur accorde de faire leur propre régime. Et puis il est dit que verset 17, que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel avait le don d'expliquer les rêves, les visions et les rêves. Et donc, au terme fixé par le roi, on amène ces jeunes hommes d'Israël, de Juda, et il remarque qu'il, le roi est très content de son entretien. Il les trouvait 10 fois mieux que les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et ainsi, Dieu a accordé la faveur à Daniel et à ses compagnons auprès du roi Nebuchadnezzar. Le chapitre 2 parle du fameux rêve de la statue que vous connaissez bien, sans doute. Il fait un rêve, le roi, et il fait appeler ses magiciens, ses astrologues, ses sorciers, bref, tous les spécialistes. Il leur demande non seulement de dire ce que le rêve veut dire, mais il leur demande de deviner le rêve. Comme s'il avait ses doutes sur leur capacité, parce que c'est facile de broder, de raconter quelque chose une fois qu'on a le rêve. Mais s'ils ont vraiment un don de divination, de pouvoir dire à l'avance, il n'a même pas besoin de leur dire le rêve. Si jamais vous avez des gens qui vont chez une voyante et qu'elle demande le nom à la porte, c'est pas la peine de rentrer chez la voyante qui voit rien du tout. Donc c'est un peu ce principe qui est en application. Et bien sûr, les spécialistes de Babylone dirent « mais ça c'est pas possible, c'est trop difficile, donne-nous le rêve et là on te donnera l'explication ». Et là le roi se fâche, verset 5, il leur dit « si vous ne faites pas connaître le rêve et l'explication, je vais vous couper en morceaux et je vais réduire vos maisons en un tas d'immondices ». Et encore une fois, ils essayent, ils disent « non, on n'y arrive pas ». Il leur dit « si vous n'êtes pas capable de me dire ça, je ne croirai pas votre interprétation ». Et verset 11, ils disent au roi « ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels ». Et sur le coup, le roi se met en colère et il ordonne de les faire tous mourir. Il y a un décret de mort qui est publié. Et on va chercher Daniel pour les mettre à mort. C'est bizarre, on va chercher les jeunes gens de Juda pour mettre à mort ces faux mages et devins. Et c'est là que Daniel se dit... peut-être que je pourrais faire quelque chose. Et avec ses amis, il fait ce qu'on oublie trop souvent de faire, il va prier. Ensuite, Daniel, il demande un délai au roi. Il va dans sa maison et fait connaître cette affaire à ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria. Verset 18, pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et là, Dieu révèle à Daniel, Dieu répond à la prière et lui explique le sens de la vision. D'abord, qu'est-ce qu'elle est ? Et le reste des versets qui suivent, c'est un chant de louange de Daniel envers Dieu. Pour le remercier de lui avoir permis de connaître le rêve et la vision et le sens de cette vision. Alors il se fait introduire par un nommé Arioc devant le roi. Là, le roi lui explique plutôt Daniel explique au roi qu'on appelait, on l'avait renommé Belshazzar. Le roi lui dit, tu es capable de me faire connaître le rêve et son explication. Et là, Daniel témoigne courageusement. Le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens, les devins qui sont capables de l'indiquer au roi, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit. Et là, il lui raconte qu'en fait, il connaît ce rêve parce que Dieu lui a révélé. Et verset 31, « Au roi, tu as une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. » On doit imaginer que ça doit être quelque chose pour Nebuchadnezzar de voir que ce jeune Israélite connaît son rêve. Il sait ce qu'il a rêvé. Et 37, il donne l'explication. « Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. » Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Et dans le temps de ces rois, verset 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ça, c'est la pierre qui va venir détruire la statue. Ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Et donc le roi donne des cadeaux, élève Daniel, il lui donne des commandements, des responsabilités, il est émerveillé. Et il remet l'administration de la province de Babylone à ses trois amis. Et Daniel était à la cour du roi. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Joseph justement. C'est intéressant que deux personnes dont il est dit aucun mal dans la Bible, à part Jésus, c'est deux hommes politiques. On a toujours l'idée que la politique s'est corrompue, mais là on voit des gens bien sûr inspirés par Dieu qui gagnent en faveur avec le responsable d'un pays, le pharaon, ici avec le roi Nebuchadnezzar, pour Joseph et maintenant pour Daniel. Et donc cette statue, ça représente la succession des grands royaumes. D'abord le royaume de Babylone, d'or. Ensuite la poitrine et les bras qui étaient d'argent. Ça va être le royaume de Perse, des Mèdes et des Perses. Ensuite le bronze. Les cuisses, le ventre et les cuisses de bronze, c'est la Grèce, l'empire d'Alexandre Ier, d'Alexandre le Grand plutôt. Les jambes de fer On pense que c'est Rome qui, à un moment donné, très rapidement, s'est divisée entre l'Empire romain de Rome et l'Empire romain byzantin. Et donc, ça, ce serait les deux jambes parallèles. Et finalement, les pieds, ce serait, on en reparlera, ce serait une résurgence de l'Empire romain, mais qui serait faible. Les 10 doigts de pied, certains ont pensé qu'il y avait... Il y a d'autres prophéties qu'on va voir qui ramènent le nombre de 10. 10 doigts de pied, 10 royaumes. Certains pensaient à une époque que c'était peut-être la communauté européenne quand elle comptait 10 États. Maintenant, c'est plus le cas. On parle de zone d'influence. On ne sait pas vraiment. Mais ça, c'est une statue qui représente le passage des royaumes, des grands royaumes, des grands empires humains de la Terre. Et finalement, cette petite pierre qui monte, qui va faire tomber la statue de tous les empires humains, c'est le royaume de Dieu, c'est le successeur de David. Et ça va finalement remplir le monde entier. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'histoire du chapitre 3, c'est l'histoire de la fournaise. Le roi Nabuchodonosor se fait faire une statue en or. Il a eu ce rêve où il avait que la tête et on lui a dit qu'il était un grand roi. Maintenant, il se fait une statue toute entière, couverte d'or. Et il est annoncé que tout le monde doit se prosterner devant la statue. Mais les jeunes amis de Daniel ne veulent pas se soumettre à cette idolâtrie qui consisterait à adorer une statue d'un roi en or. Et ça revient au roi. On lui dit qu'en fait, il y a Shadrach, Meshach et Abednego qui ne veulent pas se... adorer la statue d'or qu'il a dressée. Et il leur dit maintenant, je veux que quand on vient, qu'il y a de la musique, vous participiez à la fête et que vous adoriez la statue que j'ai faite. Et puis verset 15, si vous n'adorez pas, vous serez jeté sous le cou dans une fournaise ardente, donc dans un four, dans un espèce de trou où il y a un feu qui est chauffé très très fort. Et Nebuchadnezzar ajoute ces petites phrases, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est des phrases arrogantes qu'il va regretter plus tard, mais on admire la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Donc, politesse, courtoisie, mais fermeté, on ne va pas adorer un faux dieu. Dieu, s'il le veut, nous délivrera, mais on ne se fait pas de soucis, on ne va pas désobéir à Dieu. Le roi se met en colère, il ordonne que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Il fait mettre les trois hommes dans la fournaise par les hommes les plus costauds de son armée. Ils sont ligotés, ils ont leurs habits, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et sont jetés dans le feu. Mais il faisait tellement chaud qu'il est dit, verset 22, que les hommes qui les ont jetés, ils sont morts. Ils sont morts de par... La flamme tua les hommes qui avaient jeté les trois jeunes hommes. Et eux tombent au milieu. Et le roi remarque, en fait, il voit 4 hommes au lieu des 3. Et c'est tous ces hommes qui marchent dans la fournaise, là où on vient de jeter ces 3 hommes. Ils n'ont pas de liens. Leurs liens ont été brûlés, mais ils sont indemnes. Ils ne sont pas touché par le feu. Et du coup, le roi les fait sortir. Et la question, bien sûr, c'est qui était, d'abord, une question, où est Daniel dans toute cette histoire? On aurait du mal à croire qu'il a obéi à l'ordre. Peut-être qu'il n'a pas été accusé par les autres hommes. Peut-être qu'il était parti. Peut-être qu'il faisait quelque chose pour le roi. Certains voient là un type, une préfiguration de l'Église qui ne passe pas par la grande tribulation, qui n'est pas dans la fournaise de la grande tribulation. Et le quatrième personnage qui semble marcher, le roi lui-même dit qu'il ressemble à celui d'un des fils de Dieu. C'est une des premières fois qu'on entend cette expression, un des fils de Dieu ou le fils de Dieu. Et pour nous qui avons le bénéfice de toute la Bible, on peut imaginer facilement qu'en fait c'est une préincarnation de Jésus qui est là pour aider ces jeunes hommes dans le grand moment de cette épreuve. Du coup, le roi fait prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et ce qui est drôle, c'est que le chapitre 4, en fait, c'est écrit par Nebuchadnezzar. Parmi les auteurs de la Bible, il y a des auteurs qui étaient encore païens. Et il donne son témoignage, verset 31 du chapitre 3. Il dit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon d'indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont grands. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Et donc, il explique qu'il a maintenant confiance dans le roi. Et puis maintenant, au chapitre 4, il raconte, il dit « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. » Parce qu'il mangeait, mais il rêvait beaucoup, le roi, à l'époque. Les pensées dont j'étais poursuivi sur mon lit et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Alors il dit qu'il a fait venir tous les sages de Babylone, mais il raconte que le Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, lui a dit le rêve. Verset 7, il nous dit la dernière vision. « Pendant que j'étais sur mon lit, je regardais et voici au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était grand et fort, sa cime atteignait le ciel et on voyait les extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. Sous lui, les bêtes des champs trouvaient de l'ombre. Dans ses branches habitaient les oiseaux du ciel et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. » Dans les visions de mon esprit que j'avais sur mon lit, je regardais et voici un des saints qui veille descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, arrachez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines, dans des chaînes et de fer et de bronze parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel. » Et qu'il est comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme sera changé et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. 100 ans, c'est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le dernier des hommes. Et c'est un rêve, en fait. Le Belshazzar, c'est-à-dire Daniel, reconnaît, il a le courage d'expliquer au roi qu'en fait c'est un rêve qui le concerne, parce que l'arbre, il le dit verset 17, cet arbre grand et fort, en fait c'est toi, verset 19, dont la puissance s'est accrue au point d'atteindre le ciel, dont les dominations s'étendent jusqu'aux extrémités de la terre, et Dieu a décidé de t'humilier, et on va le chasser des hommes, et il va vivre comme une bête, il va manger de l'herbe des champs, lui qui mangeait sans doute la meilleure nourriture possible sur la terre, il va dormir, être trempé par la rosée du ciel, et ça va durer pendant 7 ans. Et un an plus tard, il est dit au verset 26, le roi, au bout d'un an, donc, est frappé de cette maladie mentale, il est dérangé. Le Talmud, c'est-à-dire un commentaire hébraïque, juif, raconte qu'en fait c'est Daniel qui a pris soin du roi pendant ces 7 années. Mais Daniel guérit. Verset 31, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Il est guéri et il témoigne l'honneur de ma royauté, verset 33, « Ma gloire, ma splendeur me fut rendue, mes conseillers, mes grands me réclamèrent, je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Donc, un récit étonnant, mais le roi qui est venu conquérir et emmener en exil Jérusalem, il est maintenant celui qui loue le vrai Dieu, celui qui loue Dieu. Là, chapitre 5, on va passer à l'histoire, en fait, de son petit-fils, Belshazzar, en français, l'écriture, ça diffère d'un seul T avec le nom qu'on avait donné à Daniel, Belshazzar. Ici, c'est Belshazzar, sans le T après le L. Et lui, il fait la fête. À Babylone, il a invité 1000 personnes, il y a une grande fête, et il n'a pas de meilleure idée que de dire, tiens, c'est vrai, au fait, ça serait bien de boire le vin, de faire la fête avec les ustensiles que mon grand-père a ramenés de la maison de Dieu à Jérusalem. Et ils boivent du vin, ils louent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois, de pierre, et là, il y a une écriture qui apparaît. Une main qui apparaît contre un mur, sur le mur du palais royal. Et il est dit, verset 5, « Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient. » C'est une façon de dire qu'il a, élégante de dire qu'il a été tellement effrayé qu'il n'a pas pu se retenir d'uriner ou d'aller aux toilettes. Il est complètement paniqué par ce signe et il demande qu'on lise l'écriture qui a été inscrite, mais ils ne peuvent pas lire ou comprendre ce qui est écrit. Et la reine se rappelle qu'il y a un certain Daniel, verset 11, un homme dans ton royaume qui a en lui l'esprit des dieux saints. Façon presque de dire l'esprit du Dieu saint ou le Saint-Esprit. Elle se rappelle que du temps de son père, c'est en fait son grand-père, on trouva chez lui de l'explication des rêves. Et qu'il était devenu chef des magiciens, qu'il était devenu chef des astrologues, des devins. On pense que peut-être Daniel a même établi l'ordre des mages, avec le secret de la prophétie d'une étoile qui les mènerait à Bethléem. Et c'est peut-être ces sages instituées par Daniel qui sont venues célébrer l'enfant Jésus à Bethléem. Et on fait venir donc Daniel et on lui dit que s'il peut donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or, verset 16, à ton cou, tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel lui dit, j'ai pas besoin de tout ça. Ton père a été humilié. Il lui raconte un peu l'histoire qu'on vient de revoir. Et il reproche au verset 22 au roi Belshazzar d'avoir connu cette histoire. C'était disponible sans doute dans les archives, dans l'histoire, en parlant à sa famille. Tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des Seigneurs, des cieux. Tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison. Vous avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué des dieux d'argent, d'or, de bronze, etc. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main tout souffle, ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il t'a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. On pense que les paroles, les mots en hébreu ou en persan plutôt, étaient écrits avec un système de codage. Dans la Bible, à l'époque, il y avait des systèmes de code assez rudimentaires où on prenait par exemple l'alphabet hébreu, on le divisait en deux. Et au lieu d'écrire avec une lettre, on écrivait avec la lettre correspondante en les mettant l'une en face de l'autre. C'était un des systèmes, il y avait quelques systèmes comme ça. Mais Daniel est capable de lire et il dit voici ce qui est écrit. Et souvent quand on fait l'écriture sur le mur, on écrit les lettres. Alors qu'en fait, de toute évidence, les gens ne pouvaient pas les comprendre. Il fallait déjà que Daniel ait le secret pour lire. Il leur dit, voici ce qui est écrit, mené, tekel et parsine. Et ces trois mots, ça veut dire compter, peser, diviser. Et c'est ce qu'il dit au verset 26, mené, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Tekel, ce n'est pas le petit chien, comme on dit en français un tekel, ça veut dire tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Parsine, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parce que Parsine, ça voulait dire divisé, c'était aussi, en hébreu, ça pouvait vouloir dire aussi bien le mot Perse. Daniel, le roi remet des récompenses à Daniel, il devient des grands responsables, mais la nuit même, les troupes de Perses se sont introduites par le fleuve, par l'Euphrate. Il y a d'autres passages qui nous expliquent comment elles prennent le pouvoir, mais le soir même, le roi des Chaldéens, c'est-à-dire le roi de Babylone, est tué. Et maintenant, c'est plus la tête d'or, maintenant on passe à l'argent, c'est les Mèdes et les Perses, les Médo-Persiens, Persiques. Chapitre 6, Darius le Mède qui reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius, donc, c'est un autre empire qui prend place. Daniel, lui, reste en poste et il répartit dans tout le royaume qui était assez grand trois chefs, dont un était Daniel. Et là, il y a la jalousie des gens qui font qu'ils essayent de trouver une faute. Ses adversaires politiques essayent de trouver une faute contre Daniel pour le faire accuser, pour le faire tomber. Verset 6 du chapitre 6, les hommes dirent, nous ne trouvons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Ça, c'est un beau témoignage. Les gens connaissaient Daniel et savaient qu'il était irréprochable. Ils se demandaient peut-être qu'il faisait quelque chose spirituellement qui n'était pas bon. Mais ils ont une idée, ils le font signer par le roi Darius un édit royal qui interdit à tout homme de prier à quelque dieu ou à quelque homme, si ce n'est pour lui le roi Darius. Et ils disent que, verset 8, « Quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. » Donc ils pensent avoir trouvé une bonne façon de coincer Daniel. Ils savent que c'est un homme de prière. Et ils ont... Verset 11, « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Donc il ne se laisse pas impressionner. Mais ses adversaires le prennent en flagrant délit de prière à quelqu'un d'autre que le roi Darius. Et ils viennent le ramener au roi en lui disant « Tiens, voilà cet homme, il a violé l'édit que tu as signé, qui est devenu loi. Et donc il doit être jeté dans la fosse au lion. » Verset 15 nous dit que le roi est très affligé quand il entend cela. Il essaye, il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Mais on lui rappelle que toute interdiction ou tout décret qui a été confirmé par le roi est irrévocable. Ça doit vous rappeler quelque chose avec le livre d'Esther. C'était aussi avec un roi perse que Aman avait fait signer un décret qui disait que les juifs devaient être supprimés. Et la force de la loi, même la personne qui a signé ne peut pas changer le cours de la loi. Et donc on jette Daniel, ça aussi c'est une histoire bien connue de l'école du dimanche, il est jeté dans la fosse aux lions. Entre parenthèses, il y a plein d'expressions dans la langue française, dans la langue du monde en général, qui viennent de récits bibliques. On parle de ça, c'est vraiment la fosse au lion pour dire c'est une situation très difficile, inextricable, on va se faire manger de tous les côtés. On dit que l'écriture est sur le mur pour dire quelque chose et va arriver inexorablement. Juste une petite parenthèse pour montrer l'influence culturelle au moins de la Bible, sinon spirituelle. Le roi passe la nuit à jeun de nourriture, il ne fait pas venir de concubine, le sommeil le fuyait. Et il va en vitesse le matin voir ce qui s'est passé. Il appelle Daniel d'une voix triste, en pensant que « Daniel, t'es encore là ? Non !» Mais le témoignage a touché le roi qui dit « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel lui répond « Oui, pas de problème, c'est tout bon, ça baigne. » Verset 23 « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent de lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi eut une grande joie, il fait sortir Daniel et il fait jeter les accusateurs dans la fosse avec leurs enfants, leurs femmes, et les lions ne leur font pas de cadeau. Avant même qu'ils touchent par terre, ils sont déjà à moitié morts, brisés en morceaux avec leurs os. Et encore une fois, le témoignage d'un homme de Dieu affecte un responsable humain. Après cela, verset 26, le roi Darius écrivait à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve et délivre, qui opère des signes et des prodiges. Dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le successeur. On voit donc comment Dieu continue de protéger et donner la faveur à Daniel devant le roi. Le roi devient pratiquement croyant. Chapitre 7, c'est la vision des quatre bêtes. C'est Daniel qui a eu cette vision. Il y a quatre bêtes qui apparaissent et l'explication on la connaît, elle est donnée un peu plus loin. Il y a un lion ailé qui représente Babylone, il y a un ours qui se dressait sur un côté, ça c'est la Perse. Ensuite, il y a un léopard qui avait sur le dos quatre ailes d'oiseau, signe de rapidité, une bête très rapide. Ça, c'est l'empire d'Alexandre, la Grèce. Et puis, il y a une bête terrible et effrayante, extraordinairement forte, verset 7. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, pulvérisait, foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle et les 3 premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. On va noter verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit, c'est Dieu le Père. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu, coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Là, on touche au sublime, c'est Dieu le Père et Jésus qui apparaît comme un fils d'homme. C'est la première expression, c'est la première fois qu'apparaît cette expression, le fils de l'homme, qui est souvent utilisée dans les évangiles pour désigner Jésus. C'est dans Daniel 7. On voit aussi des passages qui ressemblent beaucoup à l'Apocalypse, à la description de Jésus, avec des vêtements blancs comme la neige, des cheveux comme de la laine. On entre en présence du Père et du Fils dans cette vision des quatre bêtes. Et l'explication, Daniel, et c'est toujours les meilleures explications, celles qui sont données dans la Bible. Il demande l'explication à un ange, et les énormes bêtes, verset 17, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Il demande des précisions sur la dernière bête, la quatrième, parce qu'elle était vraiment terrible, elle avait des dents de fer, des ongles de bronze. Il y avait 10 cornes sur sa tête, et puis une qui était sortie, qui avait fait tomber 3 autres têtes, et cette corne avait de l'arrogance. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'à ce que, verset 21, jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours, verset 22, pour rendre justice aux saints pluriel du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, la quatrième bête, c'est une quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est une façon de dire 3 temps et demi. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue pour tout, jamais. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conservai ces paroles dans mon cœur. Les royaumes qui vont venir après les royaumes de Rome. Et cette allusion à cette corne, c'est aussi, ça parle de l'Antéchrist à la fin des temps, mais ça parlera, on va le voir, on peut avoir des informations très détaillées au chapitre 11 sur ce qui se passe, mais ça va être aussi, on va lire le chapitre 8, on va parler du chapitre 8. Daniel a une autre vision d'un bélier et d'un bouc. Il a encore une vision, verset 3 du chapitre 8. Je levai les yeux, je regardais, voici qu'un bélier se tenait devant le fleuve et avait 2 cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait ses cornes à l'ouest, au nord et au sud. Aucun animal ne pouvait lui résister. Mais comme je prêtais attention, voici un bouc, verset 5, qui venait de l'ouest, de l'occident, en rasant toute la surface de la terre sans la toucher. Ce bouc avait une corne spectaculaire entre les yeux, et il va battre le bélier, il va briser les cornes, verset 7, sans que le bélier ait la force de résister. Il le jette par terre, le piétine. Verset 8, le bouc devient très grand, mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa, 4 cornes spectaculaires s'élevèrent à sa place aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles, sortit une corne très petite qui s'agrandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. La terre promise, le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les piétina. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du crime. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait « Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le crime dévastateur, sur le sanctuaire et l'armée qui sont piétinés ?» Et il me dit « Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera rétabli. » Tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision, je cherchais à comprendre, voici que se tint quelqu'un devant moi qui avait l'apparence d'un homme. Et là, c'est l'ange Gabriel qui lui explique la vision. Il lui dit, verset 20, « Le bélier que tu as vu qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Donc c'est l'empire de Perse. Après le royaume de Babylone, ce bélier très puissant, et il y a un bouc qui vient de l'Occident, donc de l'ouest de la Perse. C'est le bouc velu, c'est le roi de Yavan. Yavan, c'est un autre nom pour la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. La Grèce arrive, il y a un premier roi, c'est une grande corne, et ça correspond à l'empereur Alexandre de Grèce. Cette corne est brisée, et il y a 4 qui s'élèvent à sa place. On sait, dans l'histoire non biblique, que le grand Alexandre est mort, et qu'à sa mort, c'est 4 de ses capitaines qui se sont divisés son empire, qui allait jusqu'en Inde, de la Grèce jusqu'en Inde. Il y avait Cassandre, le général Cassandre en Grèce, En Turquie actuelle, en Asie mineure, il y avait Lysimac. En Syrie, il y avait Séleucus. Et en Égypte, il y avait le roi Ptolémée. Les plus importants, ça a été justement Séleucus en Syrie et Ptolémée. Et c'est les Séleucides, l'empire des Séleucides, qui va amener la route au roi qui va établir un culte d'un porc dans le temple de Jérusalem. C'est les rois des Maccabées. Il y avait Antiochus, le roi Antioche des Maccabées, qui va être cette corne arrogante, et c'est aussi un type, une préfiguration de l'Antichrist qui, à la fin des temps, va essayer d'introduire un culte de l'Antichrist dans le temple même de Jérusalem qui aura été reconstruit. Alors là, on va très vite, bien sûr, c'est un peu difficile de montrer toutes les références et de montrer comment ça c'est du costaud, comment c'est sérieux, toutes ces prophéties. Le chapitre 11 est absolument... Le chapitre 10 nous parle de la prière de Daniel, qui est bloquée pendant 21 jours parce qu'il y a un combat dans les cieux. Ça, c'est les versets 11 à 13 du chapitre 10. Ça nous montre un peu comment ça se passe dans le royaume des cieux. Il peut y avoir des prières qu'on adresse à Dieu, des anges qui sont dépêchés pour répondre à nos prières, mais ils ont à mener un combat contre des forces du mal avant de pouvoir des fois amener l'exaucement d'une prière. Le chapitre 11 parle de l'histoire qui suit la Grèce et Rome de façon absolument remarquable, détaillée. On n'a pas le temps de le voir, mais c'est impressionnant. Et c'est impressionnant de voir que ça, c'est l'histoire qui est annoncée à l'avance. Ce sont des prophéties qui se sont réalisées. Mais j'aimerais passer un peu de temps sur le chapitre 9, qui est sans doute le passage le plus extraordinaire de la Bible. La petite corne, c'était Antioche Épiphane, le nom complet, Antioche Épiphane. Il y a un événement clé dont Jésus parle dans Matthieu. Donc, quel est le passage dans Matthieu qui parle de la fin des temps? C'est important de s'en rappeler, c'est Matthieu 24, il y a un discours sur la fin des temps. Les disciples lui disent... Matthieu 24, verset 1, Jésus s'en va au sortir du temple. Ses disciples s'approchent de lui et lui font marquer la beauté de la construction. Et Jésus leur dit que c'est beau, mais il va plus rien qui restera ici. Il n'y aura plus une pierre sur une pierre. Verset 3, il s'assit sur le mont des Oliviers et dis-nous quand cela sera. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc Jésus fait un discours, et au chapitre 24, donc versets 14 et 15, il explique: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le sien, que le lecteur... Fasse attention, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Malheur aux femmes qui seront enceintes, priez pour que votre suite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Jésus prédit la destruction du temple, mais aussi la grande tribulation, c'est de là que vient l'expression, verset 21, il y aura une grande tribulation. Et l'événement clé, ça va être l'abomination de la désolation. Cette abomination de la désolation, elle va se passer déjà avec lorsque le Antioche Épiphane installera dans le temple de Jérusalem avant sa destruction un porc qui était une viande maudite, une viande non cachère pour les juifs. Et au lieu d'offrir le sang des boucs et des béliers, ils vont offrir du sang de porc. C'était quelque chose de terrible pour les juifs religieux de voir la désécration du temple. Mais c'est aussi une image de la désécration que l'Antéchrist essaiera d'installer dans le temple à Jérusalem qui aura été reconstruit à la fin des temps. Les versets 1 à 19 du chapitre 9, c'est la prière de Daniel. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens ou des Assyriens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Daniel a lu le prophète Jérémie, les écrits qui ont été conservés, à quels il avait accès. Et il se tourne vers Dieu, il prie, il se tourne sa face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Et par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. C'est intéressant, on a dit que Daniel était irréprochable, mais il s'associe à ceux qui ont violé la loi, à ceux qui ont fait du mal. Nous avons péché. Verset 7. À toi, Seigneur, la justice et à nous la honte, comme en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur Dieu, notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mise devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est écarté sans écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les imprécations et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés en faisant venir sur nous un grand malheur. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Verset 13, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas discerné ta vérité. L'Éternel a veillé pour que ce malheur vienne sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait une renommée comme elle l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été coupables. Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et la supplication de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, verset 20, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, me parla, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision. Daniel réalise qu'il devrait pouvoir bientôt repartir à Jérusalem, reconstruire le temple. Et il sait qu'ils sont en exil parce que Israël s'est détourné de Dieu. Et il demande pardon à Dieu et il prie pour que le sanctuaire, pour que le temple soit reconstruit, pour que la ville soit restaurée. Et l'ange Gabriel vient lui donner une vision, une prophétie la plus grande de toute la Bible. On va la lire ensemble. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints, le centre de l'adoration dans le temple. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits. Mais en des temps d'angoisse, après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrémité des abominations. Ça nous rappelle Matthieu 24, 15. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Le mot traduit par semaine, en fait, c'est le mot hébreu shabua, qui veut dire plus exactement une septaine, c'est-à-dire une série de 7. Alors ça peut s'appliquer à des semaines, mais ça peut aussi bien s'appliquer à des années. Et on parle de la prophétie des 70 semaines ou des 70 séries de temps. Ces 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, le peuple de Daniel, c'est-à-dire le peuple juif, sur ta ville sainte. C'est pas la Mecque, il n'était pas musulman. Sa ville sainte, c'est Jérusalem. Pour faire cesser les crimes, mettre fin au péché, pour expier la faute, amener la justice éternelle. C'est pour amener le millénium, c'est pour amener la paix sur la terre, c'est pour amener la fin de tout, la fin au péché. Waouh! 70 semaines ont été fixées. Prends donc connaissance pour accomplir la vision et pour oindre le Saint des Saints. Et là, il parle, il lui dit, prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, quand on regarde dans les passages qu'on a survolés, il y a des passages qui parlent d'un roi signant un décret, et notamment dans Néhémie, chapitre 2, verset 1. Vous vous souvenez, c'est là que Néhémie, qui était un fonctionnaire du roi, qui le servait en tant qu'échanson, le roi Artaxerxès. Il est dit au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et vous vous souvenez que le roi lui demande pourquoi il n'a pas bonne mine, et il explique qu'en fait son peuple a été exilé. La ville où sont les tombeaux de mon père a été détruite et ses portes ont été dévorées par le feu. Il parle de Jérusalem. Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui dit, si tu pouvais m'envoyer pour que je rebâtisse la ville. Et il va, c'est là que le roi va signer un décret. Et par les informations historiques que l'on a, on pense que ce décret visant à la reconstruction de Jérusalem, au retour d'un groupe pour rebâtir Jérusalem et le Temple, ça s'est passé le 14 mars 445 avant Jésus-Christ, avec notre calendrier. Grégorien, ou Julien, le calendrier qu'on utilise maintenant, serait le 14 mars 445. Il y a 70 semaines qui ont été fixées, et il dit depuis la promulgation de la parole, donc depuis cette date de Néhémie 2.1, jusqu'au prince Messie. Le prince Messie, c'est Jésus, le Messie, qui est prince. Il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits. Si on ajoute ces 7 semaines et ces 62 semaines, d'abord, si on prend les 7 semaines dont il est question, point virgule, les semaines, on a dit que c'était des séries de 7 ans. Ça fait 7 fois 7, ça fait 49 ans. C'est la période de Néhémie, du livre de Néhémie, où on répare les murailles, les places et les fossés seront construits, et là, il ajoute 62 semaines jusqu'au prince Messie. Et donc, à cette date de Néhémie 2.1, il faut ajouter 69 fois 7 années, c'est-à-dire 7 fois 9, 63, 7 fois 6, 42, 583 années. Et en fait, quand on fait le calcul, et qu'on fait les corrections pour les années bissextiles, etc., les calculs sont disponibles, noir sur blanc, on arrive à la date du 6 avril de l'an 32 de notre ère. Et on s'accorde à penser, basé sur les différentes dates des fêtes religieuses à l'époque de Jésus, qu'en fait cette date, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc, dans l'Ancien Testament, à la journée précise, on savait quand Jésus-Christ allait revenir dans la ville comme le prince Messie. Mais il y allait avoir des temps d'angoisse, et après les 62 semaines, un Messie allait être retranché, verset 26. Retranché, ça veut dire coupé, exécuté, tué. C'est Jésus qui meurt sur la croix. Il n'y aura personne pour lui. Vous vous souvenez que personne n'est venu le défendre, ses disciples se sont échappés, etc. Et puis les questions... Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Ça, c'est la destruction du temple en l'an 70 par les armées de Vespasien, l'empereur Vespasien, et menée par Titus ou Tite, qui allait devenir empereur lui aussi. C'est la destruction en l'an 70 de notre ère du du temple qui est prévu. Et puis, les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Et puis, verset 27, il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, etc. La meilleure façon d'expliquer ça, c'est qu'il y a un intervalle de temps. Il était question de 70 semaines. 70 semaines, on a dit, ça faisait 70 fois 7 semaines, 490 années. Mais là, pour l'instant, depuis la date de Néhémie 2.1 jusqu'à l'arrivée du Messie, jusqu'à la destruction, jusqu'au moment où il est retranché, il y a 69 semaines qui se sont passées. Il reste une autre semaine qui doit s'écouler avant que la paix revienne, que tout soit rétabli, qu'il n'y ait plus de crime, qu'il n'y ait plus de péché, qu'il y ait la faute expiée, qu'il y ait la justice éternelle. Et c'est comme s'il y a un intervalle de temps, le chronomètre de l'histoire a été arrêté. Et on est maintenant dans cette période de l'histoire où le chronomètre n'a pas été redéclenché. Mais il va y avoir un moment, et ça c'est en correspondance avec le livre de l'Apocalypse, où Dieu va redéclencher son chronomètre, et il va se passer 7 ans à la fin des temps. Et c'est au milieu de cette période de 3 ans et demi que va démarrer la grande tribulation. Donc les prophéties, c'est souvent une réalisation immédiate ou historique proche. Là, c'était l'arrivée des armées romaines qui allaient détruire le temple. Mais c'est aussi, une fois que l'intervalle redémarre, c'est les derniers temps, c'est la dernière semaine, les dernières 7 années. Et pour beaucoup, il y a plusieurs vues quant à la position de l'Église. Certains, dont je suis, avec beaucoup d'autres, pensent que l'Église va être enlevée, un peu à la façon de Daniel, qui n'était pas là quand il y a eu l'épisode de la fournaise, et d'autres passages. L'Église est enlevée avant que ne commence la période de 7 ans de tribulation. Il y a au début l'Antéchrist qui s'allie et qui semble faire une alliance d'une semaine, donc de 7 ans. On dit que l'Antéchrist sera un homme charismatique qui signera la paix, qui sera bien vu en Israël, etc. Et cet homme, cet être, au bout de 3 ans et demi, montrera sa vraie couleur et essaiera de se faire adorer dans le temple de Jérusalem qui aurait été reconstruit. Et donc, en fonction du moment où on pense que l'Église est enlevée, il y a des pré-tribulations, dont c'est mon point de vue sur la fin des temps. D'autres, ça peut être mid-tribulation, au milieu de la tribulation. D'autres, c'est même après la période de la tribulation. Mais au bout de ces 7 ans, c'est le livre de l'Apocalypse qui prend le relais, on explique que Dieu revient, c'est le retour de Christ qui vient établir un règne de 1000 ans. Donc c'est cette prophétie de Daniel 9, en fait, elle décrit le déroulement de l'histoire depuis jusqu'au retour du Seigneur. C'est la plus grande, la plus belle des prophéties. Et ce qui est merveilleux, c'est de réaliser qu'en fait, la première partie, c'est déroulé à la lettre. Quand on voit l'histoire, quand on regarde, si vous regardez les chapitres 11 avec un bon commentaire, vous verrez toutes les corrélations historiques qui montrent comment ça s'est passé à la lettre. On sait que on peut faire confiance à la parole pour nous parler de l'avenir et de notre futur. La seule inconnue pour l'instant, c'est quand est-ce que Dieu va redéclencher le chronomètre. Il y a une période, un intervalle de temps dont il est question dans plein d'autres passages bibliques, et c'est intéressant. Je pourrais vous, si ça vous intéresse, vous faire parvenir les autres passages, mais c'est le cœur, le message de Daniel. Il avait ses visions déjà sur l'histoire des temps, mais cette prière est absolument fantastique. Et au chapitre 10, il y a cet épisode où Daniel a prié et il reçoit la réponse un peu plus tard parce que l'ange lui dit « Daniel, sois sans crainte, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » C'est un ange diabolique qui contrôle le royaume de Perse. C'est intéressant parce que aujourd'hui encore, la Perse, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est l'Iran. L'Iran, c'est l'ennemi juré en ce moment d'Israël. Il y a ce même chef du royaume de Perse, ce même ange qui est sans doute à l'œuvre en ce moment. M'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et il donne une autre vision, il parle des détails de l'histoire qui vont suivre et il termine au chapitre 12 par une vision des temps messianiques. Il reçoit un message où on lui dit « Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. » Et je crois qu'on arrive à cette période où justement, là, on est encouragé de lire l'Apocalypse, où ces choses secrètes, on commence à mieux les comprendre avec le déroulement, avec ce qui se passe en Iran, l'ancienne Perse. Daniel, va Daniel, verset 9 à la fin, car ses paroles seront secrètes et serrées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun méchant ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1280 jours. Heureux celui qui attendra, qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. Encore une allusion à la période de la grande tribulation et de savoir patienter et d'avoir confiance que Dieu contrôle le cours de l'histoire et que nous n'avons rien à craindre si nous le connaissons. Amen.